Merci d'écouter RFI. Midi et demi en temps universel. Il est 14h30 à Paris et c'est l'heure d'Afrique Midi. Bonjour Nicolas Sûr.
Bonjour Anne Kantner, bonjour à toutes et à tous. En République démocratique du Congo, le président Tshisekedi annonce la suspension immédiate de tous les contrats de lobbying avec des cabinets américains. Objectif, favoriser les relations directes avec l'administration Trump et mettre un terme au trop-plein d'intermédiaires. En Côte d'Ivoire, la mort d'Amara Essi, diplomate, ancien ministre des Affaires étrangères. Il fut secrétaire général de l'OUA, l'Organisation de l'Unité Africaine. Il avait 82 ans. La Cour pénale internationale confirme le versement de 52 millions d'euros d'indemnisation aux victimes de Dominique Ongwen, l'un des principaux chefs de la LRA, l'armée de résistance du Seigneur qui a fait régner la terreur en Ouganda et en Centrafrique. Le rapport annuel d'Amnesty International sur la peine de mort dans le monde. Le nombre d'exécutions recensées sur la planète atteint son plus haut niveau depuis 10 ans, 1518 en 2024. Mais la situation sur le continent africain est plutôt meilleure qu'ailleurs. Anne Denis, responsable de la commission abolition de la peine de mort à Amnesty, est notre invitée. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi annonce la suspension immédiate jusqu'à nouvel ordre de tout contrat de lobbying avec des cabinets américains. Décision annoncée hier soir alors qu'un contrat en particulier fait polémique. Patient Ligaudy, c'est celui qui a été conclu avec la firme Erhard Turner, dirigée par une ancienne de l'équipe de campagne de Donald Trump.
Oui, c'est un contrat de 5 millions de dollars, signé le 6 mars 2025 par Eberhard Kolongele, tout juste nommé conseiller spécial en matière de sécurité du président Tshisekedi. Il confie à la firme américaine la mission de représenter la RDC auprès du Congrès des États-Unis, de l'exécutif et d'autres agences gouvernementales. Le contrat prévoit aussi un appui en communication stratégique ainsi que l'analyse de politiques liées à la sécurité nationale. Tout cela dans un contexte où Kinshasa cherche à conclure un accord minier avec Washington, en contrepartie notamment d'un soutien dans le domaine sécuritaire.
Alors, ce contrat est aujourd'hui suspendu et cette décision intervient alors que plusieurs voix dénoncent la confusion créée par la multiplicité des intervenants.
Oui, depuis 2023, la RDC a collaboré avec au moins 4 firmes de lobbying américaines, sans compter d'autres intermédiaires. Cette année encore, de nouvelles firmes sont arrivées et les intervenants congolais se sont multipliés dans les ministères, au sein du cabinet présidentiel, mais aussi au Sénat, où certains ont pris des engagements sans mandat selon la présidence. Ce manque de coordination a posé problème dans les discussions avec les Américains, qui ont exigé un seul interlocuteur. D'après nos sources, Félix Tshisekedi a désigné un point focal déjà présenté aux Américains. Son nom n'a pas encore été dévoilé publiquement.
Alors la multiplicité des négociateurs mandatés pour parler au nom de l'État congolais est un problème qui n'est pas nouveau, il s'est déjà posé.
Oui, plusieurs sources confirment à RFI que des projets majeurs comme le développement du barrage du Grand Inga ou encore les appels d'offres pour des blocs pétroliers et gaziers ont été entravés par ce même problème de multiplicité d'intervenants. Cette désorganisation a été signalée formellement par les sénateurs Jean Bamanissa dans une lettre adressée la semaine dernière à la première ministre Judith Suminois. Il y propose de structurer ces démarches, par exemple en séparant les lobbying politiques du lobbying économique. Il suggère aussi que ce travail d'experts, d'intermédiaires, de négociateurs et des lobbyistes soit organisé et coordonné par l'ANAPI, l'Agence nationale pour la promotion des investissements.
À Kinshasa, toujours le PPRD, le parti de l'ancien président Joseph Kabila, faisait hier sa rentrée politique. Première rentrée politique depuis 6 ans, en fait, pour ce parti qui est désormais passé dans l'opposition à Félix Tshisekedi, Pascal Moulégois.
Plusieurs centaines de militants, drapeau en main et écharpe jaune autour du cou, une manière pour le PPRD d'afficher une base toujours intacte, estiment ses dirigeants. Le parti a perdu la présidentielle de 2018 et boycotté celle de 2023 et après 6 ans dans l'opposition, des défections ont tout de même été enregistrées dans ses rangs. Cette rentrée politique du PPRD, la première depuis 6 ans, était attendue car ces dernières semaines, l'ancien président Joseph Kabila est sorti de son silence avec plusieurs interviews dans les médias pour critiquer la gestion de la crise sécuritaire dans l'Est. L'ancien chef de l'État vit toujours à l'étranger. Hier à Kinshasa, les cadres du PPRD ont de nouveau rejeté les accusations de complicité avec l'AFC M23. Ils se présentent comme, je cite, « des nationalistes engagés dans une résistance politique et non violente ». À la tribune, les tons sont virulents vis-à-vis du régime. Les lieutenants de Joseph Kabila restaient catégoriques dans leur refus de participer aux consultations initiées par le président Tshisekedi en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale. Emmanuel Ramazani Shadari, secrétaire permanent du parti.
Pourquoi vous voulez encore consulter les gens? Vous avez une majorité écrasante au Parlement. Plus de 400 députés sur 500. 90 sénateurs sur 108. À quoi servent les consultations alors que vous avez été élu, vous, à 73,5%?
Ces consultations se terminent ce mardi. Le PPRD dit de son côté attendre un dialogue inclusif avec le pouvoir et toute l'opposition. Pascal Moulegua, Kinshasa, RFI.
Dans l'est du Congo, la province de la Tshopo, confrontée à une flambée des cas de choléra depuis le 24 février, 292 cas ont été confirmés selon le gouverneur. 57 personnes au moins sont décédées. La majorité des cas sont à déplorer dans les environs de Kisangani. Le conseiller Afrique de Donald Trump, Massad Boulos, à Kigali ce mardi 8 avril. Après la RDC, le Kenya et l'Ouganda, le Rwanda est la dernière étape de sa première mission en Afrique des Grands Lacs. Au centre des discussions, l'avancée des efforts pour une paix durable dans le conflit à l'est du Congo et la promotion des investissements du secteur privé américain dans la région. Un entretien avec le président rwandais Paul Kagame est attendu dans la journée. La Cour pénale internationale confirme l'indemnisation des victimes de Dominique Ongwen. 52 millions d'euros pour près de 50 000 victimes de celui qui fut l'un des principaux chefs de la LRA, l'armée de résistance du Seigneur. Ongwen avait fait appel, mais les juges hier l'ont débouté. Une décision accueillie avec des sentiments mitigés, Christine Okello.
Pour certaines victimes, c'est d'abord un sentiment de soulagement. La Cour a tenu bon malgré le fait que Dominique Ongwen n'a pas le moyen de payer une telle somme. Cette confirmation vise surtout à faire un exemple de Dominique Ongwen, reconnu coupable de massacres de plus de 130 civils entre 2002 et 2005. Une décision bienvenue, mais bien trop tardive, estime Sam Okello, ancienne victime.
Je pense que cet argent est une insulte pour les victimes. Quand on regarde ce montant, il n'est tout simplement pas à la hauteur de toutes les vies perdues, ni des souffrances subies pendant plus de 20 ans de guerre. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux lancer un vrai processus de reconstruction des communautés? Si ce n'est pas fait sérieusement, ça ressemblera à un antidouleur, à de la morphine, alors qu'on pourrait soigner la maladie.
Victor Ochen, autre survivant, alerte lui sur la dimension trop sélective du processus d'indemnisation qui pourrait raviver les tensions.
Beaucoup se demandent pourquoi notre situation a-t-elle été ignorée alors qu'on habite à côté des communautés choisies pour être indemnisées. Le rôle de la CPI risque de diviser des communautés qui commencent à peine à panser leur plaie sur des lignes éthiques ou tribales, voire de provoquer encore plus de frustration si cette indemnisation n'est pas bien gérée.
Et c'est le fonds au profit des victimes de la Cour qui est chargé de verser les réparations. Mais pour l'instant, ni Sam Okello ni Victor Ochen n'ont été contactés.
Au Soudan, depuis la reconquête de Khartoum par l'armée nationale en mars dernier, les combats s'intensifient à El Fasher, la capitale du Darfour Nord, dans le sud du pays. La situation humanitaire devient catastrophique dans cette ville qui est assiégée depuis un an par les paramilitaires des forces de soutien rapide du général Emeti, ainsi que dans les camps de réfugiés voisins. Adam Regal, porte-parole de la coordination des camps de réfugiés et de déplacés du Darfour, dénonce une situation sans précédent. Pire que jamais.
Depuis le 10 mai 2024, aucune aide humanitaire n'est entrée à El Fasher et surtout dans les camps de réfugiés. La situation est catastrophique. Il n'y a plus de nourriture sur le marché. Les gens vont jusqu'à manger celle des animaux. Il n'y a plus de produits alimentaires de première nécessité et pour ceux que l'on peut trouver, les prix sont très élevés car il y a une très forte inflation et une crise de liquidité. Par ailleurs, l'eau potable est très rare. Tout cela s'ajoute à d'autres problèmes qui résultent du blocus et de la poursuite de la guerre. Les deux belligérants ne sentent pas la souffrance des personnes confrontées à cette situation. La communauté internationale doit exercer son devoir humanitaire et exiger un cessez-le-feu provisoire pour acheminer l'aide. Les habitants des camps autour d'El Fasher, tout comme les habitants de la ville, sont victimes des bombardements, de la famine et de la malnutrition. La vie sur place s'est complètement arrêté.
Des propos recueillis par Ouda Ibrahim. Le ton continue de monter entre Alger et Bamako après la destruction d'un drone malien par l'Algérie à Tinzawaten, à la frontière entre les deux pays. Alger affirme que l'aéronef surveillait son territoire. Le Mali, soutenu par ses alliés de l'AES, le nie catégoriquement. Les ambassadeurs sont rappelés. Et à présent, les deux pays se ferment l'un à l'autre leur espace aérien. Jusqu'où ira cette escalade? Élément de réponse avec David Bachet.
Pour chaque balle tirée contre nous, nous réagirons par réciprocité. À bon entendeur, tant pis, avertissait Abdoulaye Maïga en septembre dernier. À la tribune des Nations Unies, l'actuel Premier ministre malien s'adressait déjà à l'Algérie. S'agissant du drone abattu à Tinzawaten, la menace n'a pas été mise à exécution. Si l'avenir reste imprévisible, les chercheurs sahéliens et algériens joints par RFI ne croient pas que le conflit puisse prendre une dimension militaire. La supériorité, en tout cas supposée, de l'armée algérienne est un argument largement partagé. Le partenariat des deux pays avec la Russie, alliée de l'Algérie comme du Mali, est également cité comme une limite. Les observateurs décryptent les formules agressives des deux camps, mais relèvent une forme de retenue dans l'escalade. Le Mali quitte le CEMOC, ce comité d'état-major conjoint est décrit comme une coquille vide, jamais opérationnelle. Une plainte devant les instances internationales, pas de quoi faire davantage frémir Alger. Un chercheur malien estime cependant que Bamako garde des munitions, rupture diplomatique, reconnaissance du Sahara occidental marocain par exemple. Le feuilleton n'est pas terminé, prédit cette source. Quelques heures plus tard, Alger et Bamako se fermaient mutuellement leur espace aérien.
Il était une figure emblématique de la diplomatie en Côte d'Ivoire. Amara Essi est décédé hier nuit à son domicile à Abidjan. Binta Diagne, il avait 82 ans.
Oui, Amara Essi est né à Boaké le 20 décembre 1944. Il était diplômé en droit public. C'était un fidèle de Félix Houphouët-Boigny. À ses côtés, il se forge une carrière solide dans la diplomatie. D'abord en tant que représentant permanent de la Côte d'Ivoire aux Nations Unies à New York de 80 à 90. Puis en tant que ministre des Affaires étrangères de 90 à 93. Portefeuille qu'Henri Conan-Bédier lui confie également de 93 à 2000. Entre 94 et 95, Amara Essi préside la 49e session de l'Assemblée générale des Nations Unies.
Amara Essi a joué aussi un rôle au niveau continental.
Oui, Nicolas, car il aimait profondément le monde et était tourné vers les problématiques internationales, explique un proche. Nommé secrétaire général de l'OUA en 2001, il participe notamment à la mutation de cette institution. Amara Essi devient en 2002 le premier président de la Commission de l'Union africaine. Cadre important du PDCI, Amara Essi rentre en Côte d'Ivoire avec une ambition, être le candidat du parti à la présidentielle de 2015. Il fait alors face à l'ancien président du parti, Henri Conan-Bédier, et à plusieurs cadres du PDCI qui, dans l'appel de Daoukro, s'opposent à toute initiative visant à affronter le président sortant Alassane Ouattara. Après cet épisode politique, Amara Essi se met en retrait de la vie politique ivoirienne et continue ses activités de diplomatie silencieuse.
Binta Diagne en direct d'Abidjan.
Afrique Midi sur RFI.
Dans la deuxième partie d'Afrique Midi, un influenceur nigérian condamné pour avoir jeté des poignées de billets de banque aux invités lors d'un mariage. Et puis les sports, les quarts de finale retour de la Ligue des champions africaines. Jeter des billets de banque en l'air par brassée complète lors de mariages, c'est une tradition au Nigeria. On appelle ça le Naira spraying, c'est-à-dire le fait d'asperger ses invités de billets de Naira, la monnaie nationale. Mais cette pratique est dans le collimateur des autorités. Amélie Tulé, un influenceur qui s'y était livré a été condamné hier à 6 mois de prison ferme.
Oui, il s'appelle Abdoulaye Moussa Ousseini, surnom Amouskap. Sur son Instagram, il fait la promotion de marques de vêtements. Mais hier, la haute cour fédérale de Kano, dans le nord du Nigeria, l'a déclaré coupable d'abus et de dégradation de la monnaie nationale. Parce que début décembre, en pleine fête, alors qu'il dansait, il a aspergé les invités de billets de 1000 naira, l'équivalent de 400 francs CFA. En tout, l'influenceur a projeté comme ça, comme des confettis, 100 000 naira, environ 40 000 francs, c'est plus que le salaire minimum au Nigeria.
Et cette pratique courante de jeter de l'argent lors d'événements pour féliciter un proche, encourager un artiste ou montrer tout simplement qu'on a de l'argent,
Elle est interdite au Nigeria.
Oui, depuis 2007, et bien dis donc, ça fait 18 ans. Interdite donc par la Banque centrale, car cette pratique est présentée comme irrespectueuse d'un symbole national, perçue aussi comme indécente dans un pays où la majorité des habitants vit dans la pauvreté. Depuis quelques mois, la Commission des crimes économiques et financiers intensifie sa répression, la rend plus visible en tout cas. Ainsi, des personnalités filmées, par exemple, en train de jeter avec dédain des billets sur des danseuses ont été poursuivies, mais ceux qui ont toujours tout de même très envie, Nicolas, de jeter des billets, continuent de le faire en évitant tout simplement d'être filmés. L'élite nigériane, elle, peut se permettre de contourner l'interdiction en s'aspergeant de dollars ou d'euros, puisque les devises étrangères ne sont pas concernées par la loi.
Les sports, à présent, les sports. On connaîtra aujourd'hui trois demi-finalistes de la Ligue des champions africaines. En quart de finale retour, les Soudanais d'Al Hilal reçoivent les Égyptiens d'Al Ahly, qui avaient gagné la première manche 1-0. Pyramids FC, large vainqueur 4-1 à l'aller, en visite au phare de Rabat. Et puis les Sud-Africains des Mamelodi Sundowns, qui l'ont emporté 1-0 à Pretoria la semaine dernière, ont cherché à valider leur retour dans le dernier carré en assurant au moins un nul à Rades face à l'Espérance de Tunis. L'an dernier, l'entraîneur des Sundowns, le Portugais Miguel Cardoso, était justement celui des Tunisiois. Comment voit-il ces retrouvailles alors que des incidents entre les supporters des deux équipes ont éclaté au match aller? Miguel Cardoso est au micro d'Eddie Gebeniani.
C'est un plaisir d'être encore une fois ici en Tunisie, à Rades, et de voir beaucoup des visages, des personnes qui sont des personnes avec qui j'ai vécu beaucoup de choses. On était ici ensemble beaucoup de fois. Donc, je me sens entre les amis et des personnes qui sont bien sûr des personnes qui me donnent le confort de voir, et je suis très content de vous voir encore une fois. On est très, très clair, c'est pour nous qu'est-ce qu'on veut faire. Pour moi, la violence, le mot que je dis, c'est non. Tous et quelque façon de violence qui se passe à quelque part du monde. Donc, je ne vais pas plus faire plus de commentaires sur ça. Mon positionnement concernant le sport et ma façon verticale d'être comme être humain.
Miguel Cardoso, l'entraîneur des Mamelodi Sundowns, des propos recueillis par Eddie Gebeniani. Il est 14h47 à Paris. Anne Cantner, les grands titres de ce mardi 8 avril.
L'Iran confirme que des discussions auront bien lieu avec les États-Unis samedi prochain sur le programme nucléaire de Téhéran et qu'un accord peut être trouvé si l'administration Trump en a la volonté. Le chef de la diplomatie iranienne prévient que son principal objectif est d'obtenir la levée des sanctions internationales contre son pays. Ça va mieux sur les places boursières un peu partout dans le monde. Et la présidente de la Commission européenne appelle aujourd'hui à éviter l'escalade lors d'un échange avec Pékin. Pékin qui a choisi la manière forte pour le moment et l'imposition de droits de douane également largement revue à la hausse pour tous les produits importés des États-Unis en réponse aux décisions de Donald Trump. Le président ukrainien publie une vidéo dans laquelle un prisonnier de guerre est présenté comme un Chinois combattant aux côtés des forces russes. Volodymyr Zelensky affirme que deux militaires chinois ont été arrêtés, demande des explications à Pékin et réclame une réaction de la part des pays occidentaux. Et puis on parlait tout à l'heure de la Ligue des champions africaine. Les clubs européens de foot se retrouvent aussi ce soir. Quart de finale aller de la Ligue des champions avec au programme Bayern Munich, Inter Milan et Arsenal Real Madrid. Les matchs commencent à 19h, temps universel. Le nombre d'exécutions recensées dans le monde a atteint son plus haut niveau depuis 10 ans, 1518 en 2024. Ce sont les chiffres dévoilés ce matin dans le rapport annuel d'Amnesty International. La hausse est particulièrement observée en Iran, en Irak et en Arabie Saoudite. Et il faut préciser aussi que ces chiffres ne tiennent pas compte des milliers de personnes probablement exécutées en Chine, car il manque énormément de données sur ce pays. Comment l'Afrique se situe-t-elle dans ce tableau mondial de la peine de mort ? Anne Denis, responsable de la commission abolition de la peine de mort à Amnesty France, est votre invitée, Nicolas Sûr.
Bonjour Anne Denis.
Bonjour.
La Somalie en Afrique subsaharienne et l'Égypte en Afrique du Nord sont les seuls pays du continent où vous avez recensé des exécutions en 2024. Est-ce que ça veut dire que le continent africain fait plutôt mieux que le reste du monde dans ce domaine ?
Tout à fait, et depuis des années d'ailleurs. Depuis les 5 dernières années, on a vu régulièrement des progrès sur l'Afrique subsaharienne. En ce qui concerne l'Égypte, c'est un peu moins visible. mais en Afrique subsaharienne, c'est clair, les progrès sont constants.
Alors si on n'exécute plus pour le moment dans la quasi-totalité des pays d'Afrique, ça ne veut pas dire que la peine de mort n'y existe plus. Où en est-on en matière d'abolitionnisme? Est-ce que 2024 a été une année de progrès ou de recul?
À nouveau un progrès, puisque le Zimbabwe a aboli pour les crimes de droit commun. On a presque failli avoir une abolition pour tous les crimes, mais au dernier moment, le Sénat a mis donc un amendement à la loi pour garder la possibilité de condamner à mort en cas de haute trahison.
Je crois qu'on a eu également une abolition du côté de la Zambie.
Alors, la Zambie avait aboli l'année précédente, mais là, en 2024, la Zambie a adhéré au deuxième protocole relatif au pacte international sur les droits civils et politiques. Et c'est très important parce que ce protocole ne prévoit pas de clause pour le quitter. Donc, une fois que vous avez adhéré à ce protocole, c'est terminé, vous ne pouvez plus revenir sur votre abolition.
C'est irréversible.
C'est irréversible.
Il y a une annonce, en revanche, qui a fait couler beaucoup d'encre en mars 2024. C'est celle de la République démocratique du Congo de reprendre les exécutions. Depuis cette annonce, le nombre de condamnations à mort a explosé. Est-ce que vous êtes inquiète?
Oui, effectivement, parce que l'annonce donc a été clairement faite d'une reprise éventuelle des exécutions. Ce qui nous inquiète, c'est qu'il y a eu des transferts de condamnés de Kinshasa à d'autres prisons. Et en général, les transferts sont toujours un signe qu'une exécution pourrait avoir lieu. Donc là, on a eu 125 nouvelles condamnations à mort, au moins en RDC en 2024. Amnesty International a eu, par d'autres sources, l'information que 50 autres condamnations à mort auraient été prononcées. Les autorités de RDC n'ont pas confirmé cette information. Cependant, nous pensons que les 125, c'est vraiment un chiffre minimum. Il faut rappeler que la RDC n'a plus exécuté depuis 2003. Donc là, la reprise serait vraiment un signe important.
Alors la RDC justifie cette décision par les très graves crises sécuritaires qu'elle connaît. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces justifications?
Elle dit qu'en fait, elle exécuterait pour des cas de haute trahison dans l'armée. Donc effectivement, face au conflit et à la reprise des conflits avec le M23 soutenu par le Rwanda, les autorités sont soumises à pression. C'est évident qu'ils ont besoin d'avoir en main leurs armées pour faire face au conflit, mais c'est toujours très inquiétant lorsqu'on entend les autorités annoncer une reprise éventuelle d'exécution.
Un mot peut-être sur le Nigeria. C'est le pays d'Afrique subsaharienne où on a le plus condamné à mort en 2024. Il y a un projet en cours de punir de peine de mort les délits liés au trafic de drogue au Nigeria. Ça, c'est une tendance mondiale dont vous dites qu'elle est illégale. Pourquoi? Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer?
En fait, la peine de mort ne peut, dans les droits internationaux, ne peut être réservée qu'aux crimes les plus graves, c'est-à-dire à un homicide volontaire, ce qui n'est pas le cas dans les infractions liées aux stupéfiants. Et effectivement, c'est une tendance lourde dans le monde des exécuteurs ou de ceux qui prônent la peine de mort. La condamnation à mort et l'exécution pour des infractions liées aux stupéfiants se fait de plus en plus fréquente. Alors pour le Nigeria, il y a un problème. Ils ont annoncé cela, mais en même temps, il y avait une loi qui avait été votée par la Chambre des représentants, je crois, disant que la peine maximale serait la perpétuité, donc la prison à perpétuité. Donc, ils vont nommer une commission mixte entre le Sénat, 5 membres du Sénat et 5 membres de la Chambre des représentants, pour mettre en harmonie leur texte avant de les présenter au président qui décidera. Donc pour l'instant, c'est une possibilité, mais pour l'instant, rien n'est fait à ce niveau-là.
Merci Anne Denis, merci beaucoup. Cet entretien sera retrouvé sur le www.rfi.fr et sur nos applications rubrique invité, onglet invité d'Afrique Midi. Alors que le protectionnisme économique signe son grand retour en force, de nombreux gouvernements africains cherchent à développer des politiques de transformation locale pour leurs matières premières. Objectif maîtriser de bout en bout la chaîne de valeur. C'est le cas notamment du Bénin, premier producteur de coton sur le continent, qui a bâti une vaste zone industrielle à une quarantaine de kilomètres de Cotonou. Son nom, la GDIZ, la zone économique spéciale de Clodigbé. On y fabrique notamment du textile en partant du coton brut jusqu'au produit fini. Le reportage de l'envoyé spécial de RFI Bruno Faure.
Les machines à coudre tournent à plein régime. L'atelier est au cœur de la zone industrielle de Clodigbé, GDIZ. Des centaines de jeunes hommes et de jeunes femmes au travail.
Moi, c'est Claudia Fouébé-Kiki. Je suis sur la ligne de polo. On court des habits Lacoste, donc je suis sur la première opération, c'est-à-dire je couds les épaules. Après ça, il y a d'autres qui coudent les manches jusqu'à la finition.
Une course de relais pour fabriquer chemises, t-shirts, toutes sortes de vêtements commandés par de grandes marques internationales.
Qui habillent, ils ont l'habitude de commander en Chine et autres, mais actuellement maintenant ils commandent chez nous.
Kiabi, The Children's Place ou encore Gémeaux, à Dangpo, Déborah Christa, chargée de marketing et merchandising.
Nous recevons les commandes des bailleurs en fonction de leurs documents qu'ils nous présentent, que nous appelons le Technical Pack. Nous suivons à la lettre ce qu'ils nous demandent, le tissu qu'ils veulent, les boutons qu'ils veulent, les fils à utiliser. Donc dès que moi je reçois le document, je viens voir le magasinier, je lui soumets ce que je veux.
En amont de la couture, plusieurs ateliers dans ce parc textile qui tisse sa toile d'année en année. Dans un autre bâtiment, de la fibre de coton brut transformée en fil. Valère Undete, superviseur de production.
À chaque niveau, dès la réception du coton de chez le graineur, l'équipe de qualité va déjà prélever des échantillons pour vérifier exactement c'est quoi le grade, c'est quoi la couleur. À chaque étape, nous avons des éléments qui vérifient avant qu'on ne puisse continuer la transformation.
Produire du textile 100% made in Bénin, c'est l'objectif de la société Bénin Textile qui veut concurrencer les géants asiatiques. Son directeur général adjoint, Yemi Arouamenou.
En termes de coûts, on se retrouve à peu près à égalité avec nos concurrents asiatiques dans une marge de 5 à 10%. Ceci dit, le gros avantage est le gain de temps par rapport au shipping jusqu'au marché final. Le point de départ du Bénin nous offre une position stratégique pour atteindre le marché européen ou le marché américain.
Malgré le nouveau climat commercial mondial, le Bénin, qui ne transforme aujourd'hui que 12% de sa production cotonnière, cherche de nouveaux marchés. Il espère, grâce à sa zone économique spéciale et de nouveaux investisseurs, générer une valeur marchande de 12 à 14 milliards de dollars chaque année.
Et c'est dans la zone économique spéciale de Clodigbé que se referme cette demi-heure africaine, réalisée, préparée avec Laurent Chaffard, Valentin Blanc et Pierre Vallée. Merci à eux et merci à vous de nous avoir suivis.
Vous restez sur notre antenne, on se retrouve dans deux minutes pour le rendez-vous d'Haïti et des Amériques. Si vous êtes en Afrique de l'Ouest, vous pouvez aussi écouter une demi-heure d'informations en full day.
RFI, la sélection du mois.
Nono Fuji.
Tu n'es pas Dieu le Père, le Fils couvre et dit Yeli.
Les frères Timal.
RFI Musique.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Demain.
Chikungunya, l'île de la Réunion frappée par une épidémie.
Jeudi.
Agressivité, jalousie, je n'arrive pas à me débarrasser de mes défauts.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Ce mardi sur RFI.
Que peuvent nous apprendre les insectes?
Autour de la question,
avec Charlie Dupiot.
Des fourmis qui cultivent des champignons pour se nourrir, des abeilles qui guident leurs congénères grâce à une danse d'orientation, les insectes nous étonnent par leur faculté et leur intelligence. Ces animaux ont-ils une forme de conscience ? Sont-ils vraiment si différents de nous ?
Autour de la question, tout à l'heure à 14h10 TU, sur RFI.
Coula, coula, coula.
Couleur tropicale, Claude Issiard.
Le show afro de la radio au cœur des musiques pop et du panafricanisme. La jeunesse nous parle dans la génération consciente, la libre antenne. Les invités s'y expriment et répondent à vos questions. Le show afro de la radio, c'est couleur tropicale, Africa et ses diasporas.
Couleur tropicale, Claude Issiard.
S'unir pour bâtir, c'est grandir ensemble.
Couleur tropicale, du lundi au vendredi, à partir de 20h10 TU. RFI.